Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui avec Pascal Olivier? Bonjour Pascal.
Salut à tous.
Avec Georges Bonfils. Bonjour Georges.
Bonsoir tout le monde.
Qui a déjà une bouteille à la main, qui est déjà en train de servir l'un des vins que nous allons vous proposer à la dégustation aujourd'hui. Je dis bien l'un des vins que nous allons vous proposer à la dégustation parce que vous allez voir qu'il y en a quelques-uns. Car en effet, nous avons profité de la fête des pères et du mini salon des vins qu'organise Simon Delperrier dans ses nouveaux locaux de sa cave BBR dans la zone industrielle Alba Sud de Montauban pour partir en reportage à la rencontre de ces vignerons. Vous rencontrerez dans le courant de cette émission un vigneron du Cabardès, une chargée de communication des vins de Gaillac, également un jeune stagiaire d'un domaine du Fronton qu'on connaît déjà, qui est Château Boujac. Voilà. Donc, nous vous proposerons ces quelques vins à la dégustation, nous en parlerons allègrement. Nous aurons des sujets très très sérieux ce soir, en tout cas un sujet très très sérieux, puisque Maître Blanche Magarinos Rey sera avec nous par téléphone. Maître Magarinos Rey, c'est l'avocate de l'association Cocopelli, dont on vous parle assez régulièrement, qui fait la promotion.
La promotion des graines paysannes.
Des semences paysannes.
Donc des semences libres de droit, non OGM et non F1.
Il faut savoir qu'en ce moment, ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, un projet de loi intitulé « La reconquête de la biodiversité ». Et finalement, figurez-vous que je ne sais plus si ce sont des sénateurs ou des députés qui ont vidé un article de la loi de son sens. Et donc, elle nous expliquera ça tout à l'heure, cette avocate, puisque... cet article de loi pour lequel elle se bat et pour lequel vous pouvez être actif puisqu'elle va vous proposer d'envoyer un courrier à vos députés pour remettre l'article de loi, eh bien se propose de tout simplement d'inscrire dans la loi que l'on peut céder à titre gracieux ou à titre onéreux des semences qui ne sont pas inscrites au grand catalogue des grands semenciers. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait que vous pourrez avoir demain dans votre jardin ou pas des graines de tomates anciennes qui ne sont plus, par exemple...
Achetées chez Cocopelli, c'est-à-dire que le texte de loi, ils ont viré onéreux. C'est-à-dire on peut s'échanger entre soi des
je voulais pas trop rentrer dans le détail là, voilà. Mais effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Nathalie Patard est dans les fils,
est embobinée comme tout, c'est-à-dire qu'elle a besoin de main d'œuvre pour relever les fils de ses vignes et elle fait un appel au peuple. On l'aura tout à l'heure au téléphone.
Nathalie Patard, domaine du Biarnès.
On est
en Tarn-et-Garonne et on va commencer par déguster ce vin-ci. Alors attention, ce vin-ci c'est pas.
C'est pas du casse-pâte.
Georges, c'est toi qui nous l'a apporté.
J'ai vu sur internet que château du Bordelais, un château de l'entre-deux-mers qui s'appelle le château Régnac, est arrivé en classement à l'aveugle dans une dégustation à deuxième, au milieu de tous les grands crus du Bordelais, qui veut avec des bouteilles qui valent entre 300 et 700 euros. Et là, les bouteilles que l'on déguste ce soir, elles sont entre 15 et 25 euros.
Ouh, ça vaudrait le coup de passer un coup de fil au propriétaire.
Nous aurons monsieur Vatelot tout à l'heure en direct.
Génial.
On boit ça.
On commence en musique, c'est ce qu'on boit. Ouais, super. Chin chin.
Child,
Girls, le rock de Ella King. Allez, qu'est-ce qu'on déguste par en
souple.
En reportage, pendant qu'on déguste ce vin-là, on en parlera tout à l'heure, donc on déflore pas vos impressions, messieurs. Je vous propose tout simplement de partir avec Pascal Olivier. On monte dans notre machine à se téléporter et nous nous rendons directement à la cave BBR, à zone industrielle Alba Sud, à Montauban. Nous allons à la rencontre donc de Simon Delperrier et de ses invités, tous vignerons et vigneronnes. Ils souhaitent faire cet après-midi et demain.
Et demain.
Toute la journée, des dégustations pour la fête des pères.
Ce vendredi, nous avons fait venir 4 vignerons, 2 de Gaillac, 1 de Fronton et 1 de Cabardès. Voilà, donc des vins issus de l'agriculture biologique comme on fait dans notre spécialité de la cave. Et demain, on a 4 autres vignerons avec une dégustation de rhum en plus qui se complète. Voilà. Le but est de promouvoir cette nouvelle boutique sur la zone Alba Sud et en plus d'en profiter pour la fête des pères, on puisse goûter avant d'acheter.
Tu me fais visiter la boutique vite?
Allez, je te fais visiter. C'est parti.
Hop, et puis après on discutera justement avec les vignerons. C'est pas tout le temps que CFM est en mode reportage, mais là avec Pascal Olivier, on s'est dit tiens, voilà, on va aller voir visiter la nouvelle boutique de la cave Bio Blanc
Rouge.
Bio Blanc Rouge.
Donc t'as vu déjà le parking, on peut faire une belle pétanque quand on a le temps. Hein.
Ouais. C'est vrai. Voilà. Bon, et voilà. Alors donc, ça paraît plus grand dehors que dedans. Hein.
Ouais, c'est vraiment un bel effet d'optique. Donc c'est chouette pour faire venir les gens. Hein. Et l'idée c'est d'agrandir un peu plus par rapport à un centre-ville. Donc on est passé, on a doublé le nombre de références. Et on a surtout agrandi la partie spiritueux. Toujours dans cette spécialité issue de l'agriculture biologique biodynamique, mais on s'élargit au maximum pour répondre aux demandes de tous. Voilà, et puis 1000 mètres carrés de parking, on ne pouvait pas faire mieux. Quoi.
Bon. Allez, on retourne voir les vignerons. Allez, sur la déguste, c'est cool. C'est qui alors le Cabardès que tu as invité?
Donc on a le domaine de Casaban, Clément Mengus qui a 34 ans, qui a commencé à 24 ans son aventure dans le domaine et qui aujourd'hui a su montrer son savoir-faire. Enfin, vous allez goûter, mais c'est un vigneron qui sait bosser, qui a la tête sur les épaules et qui nous donne envie de goûter ses vins. Quoi.
D'accord.
Et puis après on a Château Boujac qu'on connaît bien sur Camsas. Qui sont partis dans l'aventure maintenant depuis, je pense, 5 ans sur les vins issus de l'agriculture biologique. Et il va chercher toujours plus loin. Il va essayer de. Il nous a fait Kélina, qui est un pur négrette, travailler sur une vraie finesse. C'est un compromis entre un beau Beaujolais et un beau Bourgogne, sauf qu'on est dans le sud-ouest et qu'on peut prétendre à au même savoir-faire. Et à côté, Château Les Vignals, où là, on est sur des cuvées plus traditionnelles gaillacoises. On va du pétillant au perlé en passant par le rouge, le rosé, une gamme des plus complètes comme sait nous faire Gaillac. Et on devrait avoir Domaine Rottier qui devrait arriver dans cet après-midi où là on a les vins un peu plus haut de gamme, un peu plus travaillés dans un but de faire l'excellence sur Gaillac. Voilà, on essaye de répondre à tout et d'avoir tout pour se faire plaisir ce week-end.
Ok, et eh ben voilà, nous on va commencer par déguster, puis Pascal, tu poseras quelques questions aux vignerons, on fera connaissance avec les vignerons.
J'ai oublié de mettre le rouge.
Ah oui, t'as pas mis le micro. Non, eh ben il va falloir recommencer, mais avec le micro. Le
plus important, c'était quand même de déguster, donc maintenant que j'ai désoiffé, nous allons causer.
J'ai un
coup de rosé.
Allez, un coup de rosé, attends, parce que...
Thank you.
Le tromboniste Jean Osborne décédé la semaine dernière dans un morceau qui s'appelle Organ Grinder Swing avec à l'orgamon Thierry Olé. Là, nous enchaînons après la musique de la bonne musique. Nous enchaînons sur un superbe vin, c'est le Château de Rignac que nous venons de déguster. Après, nous goûterons le grand vin de Rignac. Mais au téléphone, nous avons monsieur Yves Vatelot qui est le propriétaire de ce cru depuis 1987, je crois.
Yves Vatelot, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste.
Écoutez, je vous en prie, avec plaisir.
Et alors, vous êtes avec nous par téléphone et vous êtes avec nous aussi sur la table.
Et dans nos verres.
Et dans nos verres, figurez-vous.
Écoutez, j'espère que vous m'appréciez.
Eh bien oui, on vous apprécie, même si ce n'est pas à l'aveugle et qu'on savait déjà où on mettait nos papilles, si j'ose dire. Puisque c'est Georges qui nous a proposé votre vin à la dégustation. Tu peux nous rappeler pourquoi, Georges ?
Parce que sur Facebook, j'ai vu une dégustation à l'aveugle où votre vin est arrivé en second, devant les premiers grands crus du Bordelais, et avec des vins qui, au point de vue tarif, valent 10 fois, voire 20 fois le prix du vôtre.
Alors, est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est vraiment...
C'est de la pub.
La pub, fausse pub, ou c'est à l'insu de votre plein gré, dites-nous tout.
Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est totalement vrai, c'est le grand jury européen qui organise ce genre de dégustation sous contrôle d'un huissier qui achète les vins et qui les sert, qui les met à température. Et pour déguster, il faut venir... Des experts dégustateurs, il y a des meilleurs sommeliers du monde, il y a des gens qui sont tous qualifiés et l'idée du grand jury c'est que jamais une personne peut se tromper, la dégustation c'est quelque chose de tout à fait subjectif, mais 15 dégustateurs ne peuvent pas se tromper en même temps le même jour sur le même vin.
Ou alors on leur a donné du GHB.
Voilà, ou alors on les a payés.
Ou alors on les a payés, oui voilà, ce qui n'est absolument pas le cas. En l'occurrence, et voilà. Mais la question, oui, peut paraître surprenante, c'est-à-dire que les résultats peuvent paraître surprenants, mais quand on va plus loin dans l'analyse du château de Rignac, on comprend que le résultat n'est pas si surprenant que ça. Derrière, il y a vraiment un grand terroir, il y a des moyens, et tout ça, vous pourriez le constater sur place.
C'est déjà arrivé par le passé où vous êtes trouvé très bien classé dans les dégustations à l'aveugle.
Oui, ça arrive très régulièrement et beaucoup en Asie d'ailleurs, parce que j'ai un peu lancé personnellement cette idée de déguster à l'aveugle parce que je suis un peu piégé par mon appellation. Le classement de 1855 n'a jamais été revu, celui de Saint-Émilion non plus. Bref, il n'y a plus de changement dans les classements. Or, on n'a pas classé tous les terroirs dans ces années-là, il y a forcément quelques perles qui résistent par-ci par-là, et Rignac en fait partie. C'est la croupe la plus haute de Saint-Loubès, qui se trouve à la pointe de l'Entre-deux-Mers et qui bénéficie des deux terroirs de rive droite et rive gauche.
Parce que l'Entre-deux-Mers est un terroir qui n'est pas le plus réputé du Bordelais, quoi.
C'est vrai, mais c'est immense et vous avez des spots qui sont de grande qualité, comme le château Rignac.
Faites-nous un petit peu une présentation, un historique du château de Rignac. Vous, ça fait combien, 20 ans que vous y êtes?
Ça fait 25 ans. J'ai acheté cette propriété en 1990. À l'époque, Michel Roland m'a dit « Tu as un grand terroir, c'est un ami, mais tu n'as pas d'appellation. » J'ai relevé le défi et j'ai mis les moyens pour pouvoir faire un grand vin. Mais alors quand je dis les moyens, c'est beaucoup d'investissement dans les chais, dans la vigne, dans la culture, enfin on a tout fait sur les plus grands crus. Mais en réalité, Rignac est une très vieille propriété qui faisait de la vigne au XIVe siècle déjà. Donc il y a une maison qu'on appelle la Nouvelle Maison qui était construite à la place d'une forteresse en 1791 et vous avez donc une propriété qui est très ancienne et qui était reconnue depuis de nombreuses années.
Oui, d'ailleurs, Parker vous a classé déjà à partir de 1992.
Non, il a commencé en 96 à parler de mon vin et à me noter 90 points sur le millésime 96.
Dans le micro, c'est 2011 et effectivement Robert Parker 92 sur 100. Majestueux et riche, il accompagne à merveille vos plats principaux.
Justement, tiens, c'est ce qu'on se disait là, ou alors j'ai peut-être pas tout écouté vos conversations, pardon, mais le millésime qui a été dont on parle en question, c'était lequel?
C'est le 2001. C'était un millésime ancien parce que le grand jury dégustait régulièrement des vins récents. Et on disait toujours que les grands terroirs s'expriment plutôt dans la durée. Donc, Monsieur François Mauss, qui dirigeait le Grand Jury européen, a fait une dégustation avec des vins qui avaient plus de 10 ans pour montrer que Reignac se tenait également dans la durée. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent vos collègues avec des bouteilles à 600, 800 euros que vous, avec votre vin à 25 euros, vous leur passiez devant?
Ils sont intouchables de toute façon, mais ils ont l'histoire avec eux. Ils font des vins immenses qui se goûtent merveilleusement. Et même si on arrive à les titiller un peu, vous savez, le problème c'est l'appellation dans le Bordelais. Mmh.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le 2011 qu'on est en train de déguster?
Alors 2011, c'est une année qui est très tendre, soyeuse, qui est agréable à boire aujourd'hui. Qui a, je dirais, c'était un millésime assez tardif, on l'a attendu. Vous avez un assemblage de 70% de Merlot et 30% de Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Qu'est-ce que vous dégustez là? Le château, chez moi, la particularité d'être le deuxième vin, parce que j'ai créé le Grand Vin de Reignac en 96 et que le château existait, donc je n'ai pas changé son image, ni son... et j'ai créé le grand vin qui est devenu en réalité le premier vin de la propriété. Je crois que vous dégustez en premier le château qui est le second vin.
Voilà, nous on est sur le château de Reignac là. Oui.
Combien de cols vous produisez à l'année de ce vin?
Alors, on produit en moyenne 330 à 340 000 bouteilles, dont 200 000 du grand vin, le grand vin de Reignac, et 130 000 du second.
Oui, d'ailleurs, nous allons déguster tout à l'heure le grand vin de Reignac, parce que j'ai acheté deux bouteilles de 2011 de vos vins.
Vous les avez achetées à quel endroit?
Je les ai achetées au Leclerc de Montauban-Ossonne, c'est, je pense, les restes d'une foire au vin.
Oui, absolument. Oui, c'est...
J'avais eu l'occasion chez M. Perraudeau, où nous avons fait une émission, là, de déguster vos vins dans une soirée foire au vin, une dégustation que l'on avait fait dans le bureau de M. Perraudeau. Peut-être vous y étiez.
Oui, absolument.
Parce qu'il y avait quelqu'un du château Reignac.
Bon ambassadeur.
et donc, vos circuits de distribution, alors c'est national, international, la grande distribution, les caves?
Alors aujourd'hui, nous vendons dans 40 pays, donc on est un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en Europe, on est vraiment même un peu en Afrique, à l'île de la Réunion, dans les îles, etc. Et puis nous avons également une grosse pénétration à travers Internet. Et donc la e-boutique marche très bien. C'est quelque chose qui est très dynamique. Et puis j'ai une équipe formidable qui, avec des jeunes femmes dynamiques, qui nous font beaucoup de buzz sur le net. Et ça, c'est un peu la nouveauté depuis, enfin c'est plus tellement nouveau chez nous, mais ça fait bien 2 ans qu'elles animent énormément notre site internet et elles font beaucoup d'opérations pour montrer tout ce qu'on fait, comment on le fait. On a également un directeur propriété qui est Nicolas Le Saint, qui a un blog très connu et qui explique tous les aléas de la manière dont on fait le vin et de les aléas climatiques, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, par exemple, pour citer les problèmes auxquels nous nous heurtons en ce moment. Voilà, on a une équipe vraiment exceptionnelle qui est très investi et qui est passionné.
Eh ben, écoutez, vous les féliciterez de la part de l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, Yves Vatelot. Merci d'avoir été avec nous. Tout à l'heure, on dégustera en pensant bien à vous le grand vin. Vous avez quelque chose à nous dire? La bouteille est encore fermée. Vaut mieux l'ouvrir ou on s'en fout, on attend un peu?
Ah, ouvrez-la et carafez-la pendant les quelques minutes qui restent.
Ouais.
Pour la dégustation.
Ça va pas beaucoup durer, hein, je vous le dis.
Ça dure jamais.
Ça dure jamais. Merci.
Et envoyez-nous au moins sur Internet, envoyez-nous vos commentaires.
Ça tout à fait, pas de problème.
Ça marche.
Merci à tous et merci à vos auditeurs et éditeurs qui peuvent acheter mon vin sur Internet. Voilà.
Château Régnac.com. De Régnac, comment? Régnac.com, non?
Régnac.com.
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 Merci à vous.
Merci beaucoup, messieurs. Merci, bonne soirée.
Merci vous aussi, au revoir.
Un petit peu de musique. Non, on en est où? Ah pardon, j'ai pas l'heure. Qu'est-ce qu'il nous reste, pardon?
Il nous reste 3 minutes. On a un reportage de 4 minutes.
Ah bah alors
avec
c'est...
Clément Mangus.
Mangus, non.
On va attendre un petit peu parce qu'on vient de discuter avec un vigneron. Je voudrais pas que les auditeurs ne sachent plus où on est. Là, on reste un petit peu, on se concentre un tout petit peu sur le Bordelais. Château de Régnac.
Et puis on peut parler un peu de ce vin qui est souple, soyeux.
Ouais, moi je...
Qui est très rond en bouche, qui a de belles jambes. Il fait 14 degrés, on le sent pas à la dégustation, on sent pas du tout l'alcool. Il est très agréable. Et bon, Rémi, tu as un peu d'avance.
C'est donc ça.
Quoi?
Ça va du tout avec.
C'est à l'insu de notre plein gré.
Non. Tout va bien. Et évidemment, vous savez que Qu'est-ce qu'on déguste, c'est une émission qui se fait avec toute la modération du monde. Hein.
Tout à fait. Sans modération, de modération. Comme ça, au moins, on passe partout. Non, c'est très bien. Bon, moi, je suis pas un fanat des Bordeaux parce que c'est vrai que c'est un peu lourd, c'est un peu épais, c'est un peu trop mode, c'est gavé de produits chimiques. D'ailleurs, on lui a pas demandé, mais enfin bon. Bon. Mais finalement, c'est pas si mal que ça.
Mais c'est bien. Moi, je te trouve bien difficile, mon petit Pascal.
Mais j'aime pas les Bordeaux. J'aime pas les Bordeaux, mais bon, c'est comme ça.
Bon, mais je suis allé quand même.
Je préfère les Syrah, moi, je suis un mec du Sud plutôt. Là,
ouais.
Là, le truc, ça pique un peu là, tu sais. Bon, alors c'est vrai qu'il faudrait manger. Il faudrait manger une pièce de bœuf, il faudrait manger un tourne-d'eau, il faudrait manger.
Un lapin en sauce, tu vois, une sauce au vin, là, tu vois. Hein? Une gibelotte. Un lapin en gibelotte.
Gibelotte. Peut-être le lapin, attention, le lapin, c'est un peu. Je dirais plutôt un gibier ou un truc comme ça, parce que c'est quand même fort.
Bon, un lièvre.
Un chat de bière.
Parce qu'il a quand même plein de qualités. Il y a de la mâche, il y a un petit peu d'astringence aussi.
Ça vaut 20 balles la bouteille quand même.
20, non, celui-là, il vaut 15 balles.
15 balles la bouteille. Ouais.
Bon.
On va faire un gros héritage. Mais en fait, on sait bien.
Alors là, on était en train de vous parler du château de Régnac. Tout à l'heure, on va boire son grand frère.
Le grand vin de Régnac,
hein, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on déguste? Eh bien, on revient dans quelques instants après les infos. C'est beau la magie de la radio. Là, on était dans le Bordelais et là, direction les infos.
CFM à Castelsarrasin.
Castelsarrasin.
90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite?
Ça se voit que c'est le grand vin. Là,
c'est le grand vin qui vient de s'ouvrir. Un entre-deux-mer qu'on dégustera dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose une autre dégustation par la magie des ondes. Nous nous rendons, Pascal Olivier et moi-même, dans notre petite machine à téléportation. Direction Alba Sud, à Montauban, 29 avenue de Belgique, à la cave de Simon Delperrier. car comme il va être papa, il se fait une dégustation spéciale, fête des pères. Nous y rencontrons un gars du Cabardès.
Mais moi, je suis Clément Mangus, je suis vigneron au domaine de Casaban. Donc le domaine, en fait, c'est une particularité, c'est que c'est pas un domaine familial, c'est un domaine qu'on a créé il y a 10 ans avec ma femme, et on s'est installé dans le Carcassonnais, hein, au nord de Carcassonne, dans l'appellation Cabardès, sur 4 hectares de vignes au départ.
Pourquoi cet endroit-là? Alors, deux questions. Pourquoi la vigne et ensuite, pourquoi le Cabardès?
Pourquoi la vigne? Peut-être un peu aussi à cause de mes parents, amateurs de vin, un peu baigné dans le vin. Moi, je suis alsacien d'origine. Et la vigne, après, j'ai bossé dans la restauration d'abord. Et j'étais pas en cuisine, j'étais pas du tout. J'ai eu un peu de mal avec le côté un peu à l'ancienne du métier, par moments hiérarchique. Et je suis allé, j'étais pas fait pour moi. Et du coup, la sommellerie me plaisait bien, mais je voulais quitter le monde de la restauration. Donc je me suis dit, plutôt aller vers la production. Et je suis parti au lycée viticole en Bourgogne. Et j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur les bons vignerons au départ qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. D'accord. Voilà, des Alsaciens exceptionnels et des gens qui ont l'amour du métier et qui l'ont transmis.
Et vous auriez pu essayer de trouver un vignoble en Alsace, là. Il ne doit pas en manquer.
Ouais, mais après, il y avait une volonté de changer de cadre.
Le soleil,
de style de vie différent. Ouais. Le Languedoc, ça reste quand même un peu c'est l'Eldorado, hein, c'est un peu la conquête de l'Ouest, mais c'est plutôt la conquête du Sud, où il y a plein de choses à faire, il y a encore des choses à faire, quoi. En Alsace, le vignoble est plus fermé. T'installer hors cadre comme ça familial, c'est quasiment pas possible, ça se fait pas, quoi. En Languedoc, il y a des gens qui viennent de partout, il y a une espèce de melting pot un peu de gens de partout, de vignerons du cru, de vignerons d'ailleurs, de gens qui sont pas dans le monde du vin et qui viennent s'installer, et ce qui fait la richesse de la région, et ce qui fait qu'aujourd'hui la région elle avance à grande vitesse, quoi.
Il faut du t'embauche à l'office de tourisme.
Ouais.
Il a un gîte aussi. Il a un gîte, il a des chambres d'hôtes magnifiques, domaine de Casaban. Mais tu sais, on les voit chaque année quand on va aux Ampélopholies du Cabardès. Ils y sont toujours. Alors lui, il n'y est pas parce qu'il est souvent à millésime bio. Mais on a son épouse Claire, Mademoiselle Claire, qui est là pour vendre du vin. Chaque année, on voit ça.
C'est vrai. On peut trinquer quand même, même si c'est qu'une déguste.
Bah non, c'est plus important. Oui. je vais toujours dire, on est vraiment au service du terroir, on n'est pas là pour s'en servir, quoi. C'est vraiment l'idée de ma façon de travailler. Et ce rosé, justement, c'est faire un rosé avec beaucoup de pureté, beaucoup d'élégance, et pas du tout un rosé démonstratif ou plutôt technologique, quoi. Donc assez pur, et c'est une base de Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon. Voilà.
Très minéral.
Ouais, c'est un rosé plutôt sur la fraîcheur, la tension, pas du tout sur le côté grave, volume. C'est plutôt c'est un rosé, on peut déjà faire de la cuisine aussi avec, on peut ou le boire à l'apéro, c'est assez polyvalent, c'est assez sympa. Et surtout sans artifice.
Très belle couleur qui est gris saumon, chose comme ça, donc qui ressemble à ces saloperies de rosé de Provence, Listel et tout ça, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et tout à l'heure, Clément me disait qu'il en vendait en Provence, donc ils se font avoir sur la couleur, mais par contre, la qualité est là. Et très belle bouche de pamplemousse aussi, des agrumes, des choses comme ça.
C'est exactement ça. L'idée, c'est de montrer aussi qu'on peut faire des rosés avec des jolies couleurs, mais il n'y a pas que la couleur, quoi. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille, au-delà du visuel, et c'est de faire un rosé vraiment où les gens vont prendre du plaisir. Ça fait pas mal à la tête, c'est important, il n'y a quasiment pas de sulfite,
et c'est bio et biodynamique,
quoi.
Et alors, ça sera combien un rosé comme ça?
Je peux 9 euros.
Ouais. Non, ça, moi, je trouve ça très frais, très sympa. Ok. Thank you.
drop your coat, put your hat, leave your worries on the
Oh, oula, ça c'est la, les disques de Georges qui côtoient trop près.
Il a dormi avec celui-là.
Qui côtoient de trop près la cave. Et donc le vin parfois coule et ça fait sauter les CD, quoi.
Et les musiciens sont amateurs de grand vin. Justement, Jean Osmond, qui est décédé la semaine dernière, qui avait 95 ans, était un amateur de vin. Et, il était né à l'origine à Paris. Il est descendu pendant la guerre à Carcassonne chez un oncle qui pourrait être au lycée à Carcassonne. Et il est resté dans l'Aude pratiquement toute sa vie en faisant des allers-retours à Paris. Il était musicien, il a joué avec beaucoup de grands musiciens. Il a même enregistré avec Django Reinhardt. Mais là, il jouait du piano alors que son instrument de prédilection est le trombone à piston, parce qu'il jouait de la trompette, donc il était passé au trombone. Il a joué aussi du piano et du vibraphone. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'accompagner au vibraphone, quand il était au vibraphone, à un festival de jazz à Dinard. Il avait 85 ans, c'était toujours un entertainer, c'est-à-dire qu'il chantait, il dansait, il jouait, et il captivait le public. Et c'était un des grands musiciens de jazz, moins connu parce qu'il était dans le sud. Il aurait pu faire partie des grands musiciens de français. Il a joué notamment avec Bill Coleman, Benny Vassar, Guy Lafitte, et beaucoup de James Boody, et beaucoup de musiciens dont j'oubliais le nom.
Et ben voilà, et on continuera de l'écouter un petit peu plus tard tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on déguste? Et tu voulais nous parler, Pascal, d'une manifestation.
Oui, du festival Musique en Vigne dans le Frontonnet, qui a lieu chaque année. Alors, je ne sais plus à quelle édition on est, mais cette année, c'est du 17 juin au 19 juillet. Le principe, c'est quoi? C'est des concerts chez les vignerons, dans des chais. Là, on sera... Alors il y a des églises aussi, l'église de Moulogne par exemple. Non voilà, un très beau concert le samedi 16 juillet à 20h30 au Château Caz à Villaudric. C'est Philippe Cassard que l'on entend régulièrement sur une radio concurrente qui s'appelle France Inter. Et Cédric Pesquia, c'est un piano 80 Schubert. Et après, le principe c'est qu'on déguste des vins de la propriété, de là où on va écouter la musique. Il y a le 2 juillet, il y a au domaine Le Roc, c'est le Nonette de saxophone Las Americas de Christian Loba, Nonette. Donc je suppose qu'ils sont neufs. Et puis dégustation des vins de la propriété. Il y a la maison des vins le 8 juillet, à la maison des vins de Fronton. Il y aura Château Bellaille, Château Joliette, Château Bouissel, Château Baudard, Cochon de lait de Patrice Martinet, Tartine et Lulu, Plaisir Gourmand, Les Vergers de Maxime et la pâtisserie Bourget. Voilà, des choses. Il y a des conférences, des tas de choses. C'est très bien. Vous allez voir ça, Musique en Vigne dans le Frontonnet, musiqueenvigne.com pour avoir tout le programme. Allez-y, c'est vraiment super sympa.
Et on reviendra sur le Fronton tout à l'heure par nos reportages qui sont égrenés tout au long de cette émission.
Avec le Château Boujac.
À la cave BBR, puisque Château Boujac, toute la journée, oui, faisait des dégustations. Château Boujac, on a déjà reçu, hein, mais ça, on y reviendra. On va passer un coup de fil à une avocate, Maître Magarinos Rey. C'est l'avocate de l'association Cocopelli. Cocopelli, tu nous en parles souvent, Pascal Olivier.
Cocopelli, c'est une association, c'est la première association française, voire européenne, qui fait la promotion des semences paysannes, donc des semences libres de droit. Des semences paysannes, ce sont des semences qui ne sont pas brevetées, ce sont des semences qui sont librement reproductibles, qui ne sont pas F1, c'est-à-dire qu'on peut les replanter, elles vont refaire, elles gardent les caractéristiques du produit. Ce sont des variétés anciennes, souvent donc beaucoup plus résistantes, et qui font partie de la biodiversité. Et Cocopelli vend, échange, enfin il y a des bourses Cocopelli,
des choses comme ça. Ils se sont mis, l'association Cocopelli, en infraction avec la loi.
Oui, déjà, parce que un semencier français les a portés au tribunal, a porté plainte, car ils commercialisent, donc ils vendent des graines qui ne sont pas inscrites au grand catalogue français, au grand catalogue des semences, des graines.
Et alors voilà, peux-tu nous expliquer juste ce que c'est le grand catalogue des semences?
C'est un guide de référence des semences, des graines qui sont autorisées ou pas. Alors on ne savait pas que ça existait avant, mais ça a toujours existé, et donc sont inscrits là-dedans les semences qui sont autorisé à la vente. Le reste, c'est pire que de l'héroïne, de la cocaïne,
mais
du crack, machin.
Ce qui est assez étonnant, c'est que des graines, au fur et à mesure, sortent de ce grand catalogue.
Ben, c'est comme le CAC 40, ça rentre, ça sort. Voilà.
Et alors, c'est là où on en vient à ce projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. C'est un joli mot.
C'est du flan, mais il
fait. Et non, c'est pas du. Ben non, justement, c'est pas du flan. C'est un projet de loi qui fait en ce moment la navette, comme on dit, entre le Sénat et la Chambre des députés. Et Maître Magarine Osreis, qui est l'avocate de Cocopelli, va nous expliquer pourquoi il est important en ce moment d'interpeller votre député. Parce que après passage au Sénat, où la loi a été adoptée, elle a été quand même un petit peu modifiée. Et il y a eu un article de loi très important qui a été modifié, dans lequel il est dit que eh bien, on peut s'échanger en gros les graines entre jardiniers amateurs, mais qu'une association n'aurait pas le droit de faire commerce de ces graines. Et on parle toujours de ces fameuses graines qui sont pas dans le catalogue de la redoute là.
Semences paysannes.
Et du coup, ça voudrait dire que par exemple, Cocopelli n'aurait plus le droit de vendre du tout ses graines. C'est un peu son
arrêt de mort annoncé.
Mais pas que ça, parce que du coup, ça va un peu plus loin que ça, et on va justement entendre, puisqu'elle est avec nous, Maître Magarine Osreis. Bonjour Maître.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous par téléphone dans Qu'est-ce qu'on déguste pour parler de ce projet de loi et de cette campagne que vous lancez pour que nous interpellions nos députés et nos sénateurs. Est-ce que vous pourriez, alors, comment dire, en vulgarisant au maximum les choses, nous expliquer pourquoi qu'est-ce qui est sorti de la loi et qu'est-ce qu'il faut absolument remettre dans la loi?
Alors, l'Assemblée nationale a introduit en deuxième lecture un article 4 quater qui visait justement à permettre la vente, l'échange et le don de semences à des jardiniers amateurs en dehors du cadre restrictif du catalogue officiel. Et le gouvernement, avec le Sénat, a vidé en fait cet article de son sens et de sa portée en limitant cette dérogation à des échanges entre jardiniers amateurs de semences, mais à titre gratuit seulement. Donc, ces dispositions nouvelles ne nous avancent pas beaucoup, évidemment, puisque l'échange à titre gratuit entre jardiniers amateurs de semences se pratique déjà, sans avoir jamais été inquiété, ces pratiques ont été reconnues comme légales par la Cour d'appel de Nancy en septembre 2014. Donc, avoir modifié ce texte de cette manière-là, c'était vraiment de la part du Sénat et de l'Assemblée nationale, eh bien, faire presque rien, si je puis dire, ou ramener la proposition de l'Assemblée nationale à zéro. Donc, ce qu'il convient de faire maintenant, c'est de demander aux députés de rétablir cet article 4 quater, dans son sens et sa portée d'origine.
Sa portée d'origine, concrètement sur le terrain, ça voudrait dire quoi? Par exemple, l'association Cocopelli aujourd'hui commercialise des semences paysannes, des anciennes graines qui sont pas au fameux catalogue, et elle pourrait plus le faire, c'est ça?
Bah, de toute façon, elle ne peut pas le faire.
En fait. Elle est déjà hors la loi, oui.
Elle est déjà hors la loi. Et pas mal d'autres associations également. Et donc l'idée ici, c'était finalement de légaliser ce qui se fait déjà chez Cocopelli et chez plein d'autres associations. Donc la vente, très concrètement, il s'agit de la vente de semences dont les variétés ne sont pas inscrites au catalogue officiel, des variétés qui appartiennent à notre domaine public, qui sont donc notre patrimoine commun et qui ont été poussées dans l'illégalité de manière complètement absurde par cette législation sur le commerce des semences. Et là, il s'agit d'assouplir cette législation dans une très faible mesure finalement, parce qu'il s'agit uniquement des jardiniers amateurs. Et on demande aux législateurs de faire ce petit effort. L'Assemblée nationale a accepté une première fois, le Sénat a refusé. Il faut que l'Assemblée nationale maintenant fasse le pas pour concrétiser véritablement cette dérogation dans la réglementation.
Est-ce qu'on sentirait là derrière les dents aiguisées des géants de l'agro-industrie qui font des semences brevetées, etc.?
Oui, Bien sûr, parce que, si vous voulez, c'est l'industrie semencière qui tient le catalogue officiel des semences, et ils ne souhaitent pas voir arriver sur le marché, même des jardiniers amateurs, des variétés qui ne seraient pas dans ce catalogue, si vous voulez. C'est ce catalogue qui organise leur prospérité, et donc ils veulent garder un contrôle total de toutes les semences qui sont mises sur le marché. Pour les jardiniers amateurs, ça fait aucun sens parce que ce catalogue, en fait, il est la garantie d'avoir sur le marché uniquement des variétés qui sont très homogènes génétiquement, donc qui vont vous donner une récolte, une production agricole très standard, ce dont les jardiniers amateurs n'ont pas besoin.
Et non reproductible.
D'autres besoins, d'autres idées, d'autres envies. Ils ont envie d'avoir accès à une gamme de variétés beaucoup plus élargie. En ayant accès en particulier à des variétés qui viennent de nos ancêtres, qui viennent de nos grands-parents, et il n'y a pas de raison que le législateur leur refuse ce droit.
Oui, parce que les grands, eux, ce qu'ils voudraient, c'est que tu ailles à Jardiland chaque année acheter tes semences de toute manière pour refaire ton jardin sans jamais reproduire tes propres graines, par exemple. Alors ça, on a bien compris. On en parlait à midi à table avec quelques amis et certains nous ont dit, mais c'est de la science-fiction, ça n'existe pas, Rémi, ce que tu nous racontes. Mais si. Ça existe, malheureusement, c'est pas de la science-fiction. Malheureusement, on parle beaucoup plus des casseurs, des grèves et de tout ça que de ce fait-là, de ce projet de loi qui est en train d'être de naviguer en ce moment. Et je voudrais, s'il vous plaît, maître, que vous nous expliquiez ce qu'on peut faire, parce que on peut tous agir là, au moins au niveau de nos députés là maintenant.
Oui, bien sûr, et je pense que c'est beaucoup plus efficace que de signer une pétition sur une plateforme de pétition. En faisant un simple clic et en mettant son nom, on ne sait pas à qui ces pétitions sont adressées. Parfois, elles sont même adressées à personne. Elles tombent dans une espèce de trou noir, alors que là, la possibilité nous est donnée, très concrètement, d'écrire à des destinataires identifiés, qui sont nos députés, qui ont un droit de vote, qui vont devoir l'utiliser mardi prochain, pour leur demander quelque chose de très concret. Hein, c'est pas une demande très générale comme ça, comme on en trouve parfois dans les pétitions. Là, il s'agit de la rédaction d'un article qui se trouve dans un projet de loi qui est en cours de navette entre les deux chambres. Donc, c'est le moment ou jamais. Il est vrai qu'on demande aux gens de faire des copier-coller et faire un copier-coller aussi en personnalisant parfois le message. Ça demande un petit peu plus d'effort que de simplement cliquer sur le bouton d'une pétition, mais c'est beaucoup plus efficace.
Voilà, et puis si des gens de temps en temps savent pas pourquoi aller déranger un peu leurs députés, ben là ça vous donne une bonne raison d'aller leur poser des questions. Alors on a partagé sur la page Facebook de CFM Radio un petit teaser dans lequel vous expliquez à nouveau tout ça, maître Magarinos Rey, pardon, et on va inviter les gens à aller là-dessus, à aller sur la page Cocopelli, à suivre les liens tout simplement, et puis eux aussi à faire un copier-coller et puis à questionner, à envoyer ces questions.
Et copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V ou POMME-C, POMME-V, ça prend 2 secondes, c'est vraiment pas sorcier.
Exactement, ça prend 2 secondes. Merci beaucoup pour votre soutien.
Merci à vous, maître Magarinos Rey, avocate de Cocopelli. Merci d'avoir été avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste.
On va gagner.
Je vous ai pris en retard.
Au revoir.
Important ça, c'est important.
Mais oui, on peut aller à la grénothèque d'une librairie à Saint-Antonin, petite librairie là qui est, je sais plus où, mais il y a une grénothèque, vous prenez des graines, vous les plantez, moi c'est ce que j'ai fait, et je vais ramener mes propres graines dans un petit sachet à la grénothèque, parce que comme ça j'ai échangé.
Ah, comme une bibliothèque, comme on prend un bouquin, on ramène un bouquin,
voilà.
On
fait ça avec tes... Là tu prends tes graines, tu fais pousser, tu as tes légumes, tu récupères tes graines et tu vas les ramener là-bas et tu refais circuler le truc, donc on est en pleine illégalité.
Super. On est des rebelles.
Ouais. Je prendrais bien un petit coup de tutut, moi. Ouais, il est fort, celui-là. Top. Oh là là là. Il est fort. Il y a beaucoup plus de différence. Hein.
Mais accroche ta ceinture. Le temps que, ici, Georges continue de déguster ce Bordeaux, nous allons déguster d'autres vins. Je te propose de nous reprojeter avec la tutute.
La tutute mobile.
La tutute mobile. On retourne à la cave BBR pour une nouvelle dégustation. Et là, nous allons...
C'est pas la même limonade.
C'est pas la même limonade, non, c'est pas pareil.
Attends, je refais le tour. Tu fais le barbecue, quoi.
Ouais, on a 1000 mètres carrés de parking, alors on va profiter. C'est mon nouveau truc.
Mais c'est génial, en plus, sous le... Tu as carrément des arbres, là.
Ouais.
Tu vas pouvoir t'installer un petit salon d'été.
C'est l'objectif futur dans les deux ans à venir, quand l'affaire tournera, quoi. On va faire un petit bar
avec... Non, parce que, blague à part, là, avec... C'est quand même... Effectivement, tu as une petite surface de vente à l'intérieur, mais finalement, une énorme à l'extérieur. Donc, j'ai en souvenir le... salon des vins que tu avais organisé Place Lalac, pourquoi pas un joli salon des vins partout ici tout autour.
Ben, c'est l'objectif en fait. Pour la rentrée, on va proposer un salon des vins en septembre là pour les foires aux vins de supermarché, ben, pour proposer une alternative. On va faire venir une vingtaine de vignerons sur tout le parking. J'espère qu'il va faire beau, mais ils nous l'ont promis, donc on verra bien. Et on va essayer de faire venir des vignerons de toute la France qui vont faire goûter leurs produits, enfin leur vin.
Et puis un concours de pétanque là à l'ombre.
Bien entendu, hein, un concert. Il faut tout faire là. Là on a un vrai jouet pour pouvoir s'amuser et proposer des moments conviviaux autour d'un beau verre ou un truc comme ça. Voilà,
bah, n'oublie pas le centre-ville quand même, hein, rue des Greffes.
On a un vrai bar à vin là-bas hein, quand même. Donc, ouais. C'est vrai que c'est pas un bar à vin qu'on veut faire à Place Lala, enfin ici à Alba Sud. À Alba Sud, c'est une cave et le bar à vin, on veut s'appuyer en centre-ville puisque c'est là où, enfin le centre-ville, c'est quand même le moment de la détente et du plaisir.
Comment il s'appelle déjà ton collègue maintenant qui est plus souvent que toi là-haut ?
Donc il y a Jacques et il y a Maxime. On est trois maintenant.
D'accord, vous êtes trois.
Voilà.
Il m'en manque un, alors j'ai pas fait la connaissance du troisième.
Tu le trouveras, tu verras.
D'accord. Bon allez, je reviens vers les autres vignerons parce qu'il faut que...
Ouais, il faut bosser.
Ah bah oui.
Ouais,
bien.
Bah ouais.
Oui. Je t'ai pas Carignan, Cabernet Sauvignon.
Mais par contre, t'as pas pris de...
Alors, tiens.
Allez.
Il y en a.
Jour de vigne.
Mais là, je crois pas qu'il les ait pris là.
Jour de vigne 2015. En vin de pays des Côtes de l'Astour. On est sur mon premier rouge de la gamme, qui est plutôt mon rouge de copain. Vin gourmand, du fruit, de la fraîcheur, plutôt là pour l'été, quoi. On peut le servir là, on l'a servi un petit peu frais justement, parce que c'est vraiment le rouge pour les grillades, voilà, pour même là, pour les matchs de foot, là, tu bois ça avec une pizza.
Oh, ça fait combien? Ça fait 10 degrés?
12,5, 13, ouais.
On n'est pas habitué sur les cabardesses à avoir des vins de 12,5 quand même.
Après, moi, c'est vrai que c'est mes cabardesses, on est toujours. Ah.
Justement, téléphone.
Pardon. Juste mes cabardesses, en fait, on est vraiment sur ce style-là, tous mes vins. La tension, de la fraîcheur, ça c'est moi j'aime les vins comme ça, donc je fais que des vins comme ça.
Parce que d'habitude, les cabardesses, c'est des vins ensoleillés qui font plutôt 14,5.
Ouais, mais ça, c'est pareil, on a eu dans les cabardesses depuis quelques années, on a vraiment un changement de style. Les vignerons reviennent à des vins avec des belles buvabilités. Moi, le cadre de travail, c'est toujours fruits, fraîcheur, finesse, c'est toujours ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les cabardesses qui se dirigent aussi vers ça en général. Nous, quand on est arrivé il y a 10 ans, c'est vrai que c'était pas ce style-là. Maintenant, je trouve que globalement, même les domaines phares qui est un peu qui étaient justement des vins plus avec un peu plus de structure, un peu plus de complexité et surtout de richesse, ils sont revenus à chercher de la finesse. Et là,
et comment on fait ça? Parce que souvent, le problème, c'est que quand le raisin a eu beaucoup de soleil, il a beaucoup de degrés. Alors comment on fait pour faire baisser la...
Il faut aller travailler à la vigne. Il n'y a pas le choix. C'est pas, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas un produit magique. Non, ça n'existe pas. En fait, c'est du vrai travail de la vigne. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faut revenir à des sols vivants, il faut revenir à un travail de la vigne. On a des sols vivants, on a des vignes qui sentent bien dans leur environnement. Et il va pas y avoir de blocage de maturité, il va pas y avoir d'arrêt d'évolution de la maturité au niveau des peaux et des pépins. Et c'est ça le problème, c'est que souvent on a le sucre qui se concentre et les peaux et les pépins n'évoluent plus. Et du coup, on est obligé d'attendre, et là ça concentre. Et là, on va arriver avec des vins qui viennent de plus en plus riches et on est obligé d'attendre qu'ils soient mûrs. Parce qu'en fait, la maturité, il y a la maturité du sucre, et il y a la maturité après des peaux et des pépins. Et c'est la peau et les pépins le plus important. Le sucre, on est obligé d'attendre parce que moi, si je pouvais les ramasser à 12, mais je les ramasserai à 12, mais il faut quand même que j'attende que ce soit mûr au niveau des peaux et des pépins. Et du coup, moi je constate depuis 10 ans qu'en travaillant bien, en ayant des sols vivants, on a un resserrement en fait, on a plus ce côté décalage entre les deux maturités, et on arrive du coup à faire des raisins avec de la finesse, de la fraîcheur.
On sent là, très clairement, jour de vigne. Très clairement, voilà, c'est exactement dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire dans de la finesse. Pourquoi jour de vigne ?
C'est un peu
de marketing.
Ouais, ben en fait, c'est donc comme nous, on a tout créé, le domaine, il a fallu créer une gamme, donc on a dû créer des noms de cuvées. Et en fait, l'histoire, c'est que mon beau-père et mon père sont beaucoup venus nous aider les premières années dans le vignoble, et ils prenaient des jours de congé pour venir. Et ils sont des amateurs de vin, mais ils se rendaient jamais compte de ce que ça représentait le travail de la vigne. Et du coup, c'était un peu la corvée de venir au bout d'un moment, parce qu'ils étaient, on bosse comme des fous, tu nous fais bosser comme des fous. On part de chez toi, on est crevé. Et c'était nos jours de congé, donc c'est leur jour de vigne. C'était un peu l'idée, c'était ça au départ, voilà. C'était
une dédicace pour eux.
Ça fait un drôle de bruit, notre tut-tut de téléportation, mais elle fonctionne, elle nous emmène depuis la cave de Simon. Ne m'y renvoie pas, s'il te plaît, il faut que je reste encore un peu là. Donc, il est 29 avenue de Belgique, zone Alba-Sud, à Montauban. À notre studio, nous venons d'avoir une conversation et une dégustation avec Clément Mingus du domaine de Casaban. Ça fait 10 ans qu'il a ce domaine dans le Cabardès. C'est un petit gars, je dis un petit gars parce qu'il est pas très haut, mais alors quelle énergie, comment il parle de son vin. T'as envie d'aller le voir chez lui, t'as envie d'aller vivre dans son gîte, d'aller ramasser les raisins avec lui.
C'est à 1h30 de route d'ici.
Et son vin là, celui qu'on vient de déguster, est vraiment très très chouette. La suite de Qu'est-ce qu'on déguste. Après ça.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors au programme, le grand vin de chez Château Reignac, c'est celui qu'on déguste ici en direct en studio depuis le 5 boulevard Garrison à Montauban. Mais on va aussi déguster du Château Boujac, et ça c'est après avoir pris notre petite machine de téléportation avec Pascal Olivier. On va se téléporter à la cave BBR 29 avenue de Belgique, zone Alba-Sud. On y rencontrera également Lucie Pitano de Château Vignal, et ça c'est du Gaillac. On dégustera du coup quelques bulles qui sont assez extraordinaires.
Et puis
entre-temps, on aura une discussion avec Nathalie Patard, viticultrice du domaine du Biarnès, bien connue des auditeurs réguliers de Qu'est-ce qu'on déguste. Elle est à la salle Table Belmontée et elle a un problème sur ses vignes. Et du coup, elle lancera un appel sur CFM, un appel aux bénévoles pour remonter ses fils. Et on se doute que c'est pas les fils du téléphone.
Elle est embobinée.
Alors, moi, je voudrais qu'on trinque avant de repartir à la cave BBR, Georges. On est sur le grand vin.
Le grand vin du Château Reignac. C'est un vin très, très puissant, très long en bouche, avec un petit peu de rafle.
Tiens, tu m'en redonnes, parce que moi, j'avais pas goûté.
Qui est vraiment impressionnant. Bon, c'est très type, typé bordelais. Et ça se trouve dans la cour des grands, quoi.
Mais c'est quoi la rafle?
La rafle, c'est ce qui porte le raisin, qui porte la baie de raisin.
Donc c'est les petites branches sur lesquelles sont accrochés les raisins.
Ça donne un peu cette amertume et cette astringence. Voilà.
C'est la branche de la grappe.
C'est ce qui permet aussi au vin à vieillir. Parce qu'on écrase tout, on écrase le jus, on écrase la baie, la rafle, et ça permet au vin de garder de vieillir, de garder dans le temps et de garder la couleur et tout. mais ça donne un petit peu d'amertume qui est pas désagréable.
Voilà, et ben écoute, on vous conseille vivement ce vin parce que pour 15 ou 20 balles, vous pouvez entrer dans la cour des grands, puisque on rappelle que à la dégustation à l'aveugle, c'est pour ça qu'on le déguste aujourd'hui, il a été classé second parmi des grands crus qui eux valent 200, 300, 400 ou 500 balles. Donc ça vaut quand même le coup.
Oui, ouais.
Hein ? Allez, on remonte dans notre petite machine.
Alors,
oui.
Toi, t'es chargé, tu charges.
Chargez les canons.
Hop,
on tire. Boum.
Merci.
Alors.
On s'aperçoit qu'à Château Boujac, déjà, on est plus généreux que dans le Gaillacois.
Voilà. Et surtout.
On voit que le verre est voilà. plus, beaucoup plus rempli. Mais c'est parce
qu'il est
stagiaire, donc il n'a pas encore compris qu'il fallait économiser sur toute la journée.
On a des réserves.
De fond.
Voilà,
on a compris qu'ils avaient du coffre. Donc Château Boujac est un vignoble de l'AOP Fronton. On produit exclusivement en bio, certifié depuis 2011. Il faut savoir que c'est un domaine familial avant tout, donc une famille d'immigrés italiens qui s'est établie dans la région dans les années 1960. Donc maintenant c'est la troisième génération, donc Philippe qui s'occupe avant tout de la production des vins, qui gère donc les 30 hectares de vignes en agriculture biologique, Michel qui s'occupe plus de la partie commerciale, et puis Jérôme et Pierre, donc un ouvrier qui aide Philippe dans la production, et Pierre le commercial tout récent du domaine depuis 6 mois.
Château Boujac, ça me dit quelque chose, Pascal ?
On les a reçus, on les a eus. Qu'est-ce qu'on déguste ? On a déjà bu leur vin. Les rouges étaient excellents.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la gamme ? Là, on est en train de goûter un blanc.
Alors, le blanc, donc, on est sur le Terra Minima. Donc, un blanc assez aromatique, un blanc sec, avec un assemblage de muscat de Hambourg et de sémillon.
Ah, c'est ça, c'est le muscat de Hambourg.
Ça donne un assemblage assez explosif et ça fera un très bon vin pour accompagner fromage et poisson.
Ensuite, derrière, le rosé.
Le rosé.
Allez, sortez les barbecues, sortez les piscines.
La cuvée tradition, donc là, on va sur des cépages typiques de Fronton. Donc forcément la négrette pour être dans l'AOP. Donc ça va être un assemblage donc de 50% de négrette, 30% de syrah et 20% de cabernet franc. Un rosé donc très fruité et assez généreux.
Alors on n'est pas sur la même couleur que tout à l'heure, t'as vu ? Même s'il reste assez clair.
Très sur mon nez.
Mais on n'est pas du tout comme...
Clément Mengus, domaine de Casablanca, qui était un gris rosé. Là, c'est très très beau, très très beau.
Bon, de toute manière,
C'est sympa ça aussi. Hein. Ah ouais. Rosé de pressé ou rosé de saigné? Ah, il ne sait pas.
Ça fait pas longtemps qu'il a rejoint l'équipe.
Voilà.
De Château Boujac. Et là-dessus, il perd sa prime de fin d'année.
Eh oui, là hop, on coupera en montage. Hein.
Qu'est-ce qu'il est écrit sur la contre-étiquette ?
Rien. Contient des sulfites, produit de France, appellation d'origine protégée, Fronton, 12 degrés 5, bio, et voilà, c'est tout.
Château Boujac, commercialisation, on est où ?
Alors, Château Boujac, on est donc une clientèle quand même essentiellement professionnelle, donc on est présent, donc... sur les cavistes de tout la région Midi-Pyrénées. On est également présent donc, dans de nombreux magasins bio, les Biocop, tous les magasins bio indépendants. Les restaurants, donc on vise plutôt les logis de France, les bonnes tables. On est présent par exemple à Montèche chez le restaurant Constant. Et puis également dans des petites supérettes de proximité, des Carrefour Contact.
Ça sera combien ?
Alors, le tradition, il sort aux alentours de 6-7 euros. Et il faut savoir que c'est également ce qu'on retrouve dans nos bibes de 3 litres. Donc, on met pas des cuvées annexes.
C'est sympa, ça.
Rosé, bien. Je vois l'apéro. Apéro sur...
Ah, oh, mais on a envie de faire des grillades. Ouais. On a envie d'être au bord de la piscine, sur la terrasse, sur les grillades. Got no time to play. Every nickel helps a lot.
So shine, shine, shoe, shine, boy. You'll find joy in the things you do. Oh, shoe, shine, boy. Seldom ever blue. You're content with what you've got. So shine, shine, shoe, shine, boy. People look at you with scorn, cause your clothes are worn and torn, till you never whine. You keep walking up and down the street, leading with each one you meet. Brother, can you spare a dime? Shoeshine boy, soon the day will come. Shoeshine boy, soon meet your little hum. Every nickel helps a lot. So shine, shine, shoe, shine, boy. Oh, yeah.
Pas mal là pour ce petit qu'est-ce qu'on déguste du vendredi soir. Alors oui, vous savez quoi, vendredi soir, c'est qu'est-ce qu'on déguste. Et samedi midi, c'est rediff de qu'est-ce qu'on déguste. Donc la conversation que vous allez entendre là maintenant avec Madame Patard du domaine du Biarnès, eh bien elle a eu lieu hier soir. Alors, vous allez me dire, on comprend plus rien entre la voiture de téléportation qu'on utilise et tout le reste. On sait plus trop où on est. Eh ben là, on est... l'est du département, tu nous situes le domaine du Biarnès, de Biarnès?
Dans la Salvetat-Belmonté.
C'est
ni à l'est, ni à l'ouest.
Ben, par rapport au Montauban, c'est à l'est.
À la Salvetat-Belmonté. Sur la route de Montclar. Montauban, Montclar, au milieu, la Salvetat-Belmonté. Quelques centaines de mètres, et on arrive au domaine du Biarnès.
Allô, Madame Patard. Comment va Nathalie?
Allô, Rémi. Bonjour, ça va?
Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui vous arrive dans vos vignes, là? C'est quoi ces histoires de fil?
Ben justement, il nous arrive rien, c'est-à-dire qu'elle est superbe la vigne cette année et on n'arrive pas à suivre quoi, parce qu'on n'est pas, on n'est pas 50 dans la vigne et donc elle pousse même la nuit et donc on a fait appel à des amis ou à toutes les bonnes volontés pour venir nous aider à remonter les fils pendant quelques jours si c'est possible.
Parce que tout le monde croit que vigneron ou vigneronne c'est un boulot de branleur. Eh ben non, manque de peau, c'est un vrai travail et tout le temps.
Donc il faut remonter des fils, mais c'est pas des fils téléphoniques. Moi je croyais que vous aviez tous vos fils par terre.
C'est les fils entre les échalas.
C'était terrible que vous étiez au bord du suicide, non. Mais pas du tout quoi. Bon, raccroche le téléphone.
J'avais dit que c'était terrible, juste pour demander quelques petites mains en plus pour que la vigne reste superbe comme elle est, parce que sinon, si on traite et qu'on roule sur les branches, on a 8 hectares quand même, donc on a, avec la pluie qu'il y a eu, etc., c'est un peu difficile et on n'arrive pas à suivre. Elle pousse la nuit, quoi. Voilà, donc...
Donc il y a besoin, de mains bénévoles pour remonter les fils au château du Biarnès. On s'inscrit où?
Mais ça veut dire quoi, remonter les fils? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, entre les échalas, il y a des fils de fer. Ces fils de fer, comme la vigne a poussé.
Les échalas?
Oui, les piquets qui tiennent la vigne.
D'accord.
C'est ça, est-ce que je me trompe?
C'est ça, oui, il y a des piquets, donc on a mis les fils par terre au printemps quand il n'y avait pas encore de feuilles. Et puis maintenant, les feuilles poussent et les branches tombe par terre et c'est très mauvais pour le mildiou parce que ça vient du sol.
L'humidité remonte par là.
Donc voilà, il
faut que les branches de la vigne elles soient en l'air et non pas comme elles sont aujourd'hui.
Ah, et donc on met des fils de fer comme ça, comme pour les haricots.
Il y a trop la remonte.
D'accord. Pourquoi vous les avez enlevés?
Il y a des petits phénox, mais parce que il faut les faire tomber pour pouvoir tailler en hiver quoi.
On les met au sol.
D'accord.
Oui, on les descend. Ils sont par terre, donc maintenant il faut les remonter, c'est beaucoup plus facile. Au lieu de passer les branches dans deux fils, on prend les fils qui sont par terre et cloc, on les remonte, on les met dans des petits... sur des petits phénox, sur des petits crochets.
Il y a combien d'hectares à se taper, là?
8, elle a dit.
8 hectares.
8 hectares. Ça prend combien de temps?
À demi-hectare. Ça dépend.
Ça dépend du vent, ça dépend du monde qu'il y a. C'est pour ça que tu fais un appel au peuple, aux petites mains bénévoles pour monter tout ça, pour que ça soit plié le plus rapidement possible, pour éviter le mildiou.
Oui, c'est ça, et ce n'est pas difficile, ce n'est pas un travail qui est comme la taille ou les vendanges, c'est simplement prendre des fils qui sont par terre, les remonter, mettre des clips et c'est tout.
Donc on vient bosser 8 heures, on est traité comme des chiens, on boit un coup aussi, ou pas?
C'est ça, ah oui, mais chez nous on boit toujours un coup. Ceux qui travaillent bien, ils auront peut-être même une bouteille, va-t'en savoir.
Alors, c'est le plus rapidement possible pour les quoi, la semaine qui arrive, la 2 semaines?
Oui, oui, sur 2 semaines, il faudrait que ça soit remonté.
Alors, si on trouve des mêmes bénévoles, elles s'adressent où? On fait comment pour s'inscrire? On vient directement en disant « je vais remonter les fils ».
Non, non, il faudrait me téléphoner parce qu'il y a des jours où nous ne sommes pas là. Donc, parce qu'on fait aussi d'autres choses, des livraisons, d'autres choses.
Alors, on peut te trouver le samedi matin au marché de Montauban, devant l'ancien collège, si on veut s'inscrire. Oui, sinon, téléphone, quel numéro de téléphone?
Alors, on peut me téléphoner au 06 84 08 72 24.
Ah bah voilà.
On va y aller. Moi, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Mais la semaine d'après, je viens une journée.
Demain matin, tu es au marché à Montauban ou pas?
Oui, oui. Et le mercredi soir aussi, sur le marché bio, le petit marché bio du mercredi soir.
D'accord.
Et oui, parce que c'est bio en plus.
Et ben oui, le domaine de business.
Oui, c'est bio. Oui, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Donc, on doit traiter d'une façon beaucoup plus légère avec la vie bordelaise et pas de produits chimiques. Donc, c'est très dommage cette année de perdre le magnifique, super raisin qu'on a. C'est la première année depuis l'année qu'on a.
Nathalie Patard, un peu de marketing orthographique, c'est pas ça le problème, c'est ça la solution. Allez, à bientôt, on vous embrasse très fort.
Merci
Nathalie. Salut.
Au revoir Rémi, au revoir Pascal.
Salut Nathalie. Vous êtes des shadows, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Et tu sais ce qu'on va faire? On va reprendre. Non, peut-être tu voulais nous parler d'un bouquin. Avant qu'on reprenne notre petite voiture de téléportation.
Oui, rapide. J'ai trouvé ça qui est sympa, La table de Nicolas Le Floch. Alors Nicolas Le Floch, pour ceux qui regardent de temps en temps la télé ou qui lisent, c'est ça part de un écrivain qui s'appelle Jean-François Parot, qui a sorti une quinzaine de bouquins. Il en sort un tous les ans ou tous les 2 ans. Nicolas Le Floch, c'est qui? C'est un policier, un policier, un petit peu avant la Révolution, 1780 à peu près, entre Louis XV et Louis XVI. Et il y a des enquêtes, des machins. C'est assez passionnant à lire. Il y a une belle série à la télé. Et Marion Godefroy, qui est une chercheuse en histoire, a sorti à la table de Nicolas Le Floch. Donc c'est ce sont des recettes un petit peu à la manière du 18e siècle. Potage à la Dubarry, soupe à la Jacobine, la loyau Noblecourt, un ragoût de pommes de terre. Tout bête, ça venait de sortir, la pomme de terre. Les œufs à la Tartuffe, magnifique. Donc belle photo, belle recette.
Et ça
ananas
vient de
glacée.
Sortir ou pas?
C'est
sorti. Parce que si tu l'as acheté sur un vide-grenier et que c'est sorti en 1982,
je l'ai acheté. C'est achevé d'imprimer en octobre 2015. Non,
c'est oui, d'accord. C'est
dépôt légal octobre 2015. J'ai acheté ça à La Femme Renard. C'était en devanture. Elle venait de le mettre en vitrine et j'ai pris le seul exemplaire qu'il y avait. C'est très intéressant. Donc vous l'aurez pas.
À la table de
Nicolas Le Floch. Recette du 18e siècle. C'est sympa.
Allez, on reprend notre véhicule de téléportation direction la cave BBR.
Alors, moi, je veux bien. Je veux bien que vous me changiez le verre.
Ouais, okay. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui me fait plaisir?
Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est ce truc qui pétille un peu. Là.
Ce truc qui pétille, c'est le perlé, en fait. C'est un produit qui est purement gaillacois, qui a été inventé à Gaillac il y a des années de cela. Et dans le perlé, tout simplement, on garde le gaz de macération, en fait. Donc, on est sur un blanc sec qui a une bulle toute fine. Et la bulle va être intéressante parce que ça va venir pour rehausser les arômes ou dans un accord mets et vins, par exemple avec des fruits de mer. Ça va super bien avec l'iode parce que justement, ça rehausse un petit peu le relief qu'on a en bouche.
Alors, pendant que vous me servez un petit fond de verre, vous vous présentez en même temps.
Donc, moi, je m'appelle Lucie Pitana et je travaille au domaine depuis pas longtemps. Ça fait 3 mois et en fait, je m'occupe de tout le développement commercial en France. Voilà. Donc, je connaissais déjà Gaillac parce que je suis de la région, hein, et puis les vins, ça me passionne un peu aussi. Hein. Donc voilà, je suis arrivée au domaine et puis je suis tombée un peu amoureuse de la façon de travailler, de l'équipe qu'il y a. C'est vraiment des personnes, voilà, qui sont passionnées, qui ont la philosophie du bio parce qu'on est en bio aussi. Voilà, c'est vraiment tout un travail de se dire. On fait du bon vin, un vin qui est bon pour nous, un vin qui est bon pour la terre et qui nous promet de belles années.
Tu peux me montrer, Pascal, où se situe sur la carte Château Vignal ?
Ici, en plein milieu du triangle d'or entre Gaillac, Albi et Cordes. Et là, ils sont juste en plein milieu, donc on va trouver par là.
On va être à 10 minutes de Cahuzac-sur-Vert, ouais. Tout simplement. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on est dans un endroit qui est vraiment magnifique. Nous, rien que par rapport au domaine, en fait, on est un petit peu en hauteur. C'est comme un promontoire. On a toutes nos vignes qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment un endroit qui est un peu vallonné. Il y a des vignes partout. Et puis Gaillac, c'est les anciennes bastides. Voilà. Les paysages sont vraiment sympas. C'est un cadre de travail qui est plutôt chouette.
Combien d'hectares au Château Vignals ?
Alors, au Château Les Vignals, on est à 40 hectares. Donc, ça fait beaucoup d'huile de coude pour travailler en bio. Mais justement, c'est ce qui est d'autant plus beau.
Il y a une grosse équipe ?
Alors, plutôt oui. On est... alors, exactement, je ne pourrais pas vous dire, hein, parce qu'au niveau des saisonniers, bah, bien sûr, ça tourne. Voilà. Et après, il y a 3 personnes qui travaillent donc, au niveau du chai, donc de la vinification. Et ensuite, on est 4 au niveau commercial. Voilà.
Alors, je prends. Donc, le Pernet Nature, Château Les Vignals.
Qu'on ne connaissait pas encore, qu'on n'avait pas
bien
dégusté.
Non, mais... écoute, c'est la première fois. Et je trouve
c'est
que...
fort bon.
Souvent, dans le cahier des charges, alors on est sur du Perlet Nature, on n'est pas sur la méthode ancestrale.
Non, c'est
parce
ça.
Que la méthode ancestrale, ce que moi je lui reproche souvent, mais
je la goûte. C'est
dans le cahier des charges, c'est qu'elle est toujours trop sucrée. Mais d'accord. Il faut qu'elle soit sucrée, me dit-on à chaque fois que j'interviewe quelqu'un du Gaillacois. C'est pas vrai ?
Il faut qu'il y ait un petit peu de sucrosité. Mais pas... Alors je vais goûter celle-là. Alors,
et moi j'aime beaucoup nouvelle. Le Perlet du coup.
Vous allez voir la différence parce qu'ici on est sur une méthode traditionnelle, pas sur une méthode ancestrale. Donc c'est une méthode champenoise, mais qu'on a fait avec du mozzac, qui est vraiment le cépage typiquement gaillacois. Donc justement, si c'est le côté sucré qui vous gêne un peu, là vous allez retrouver le cépage, mais moins de sucre.
La différence entre la méthode ancestrale et la méthode traditionnelle, donc ?
En fait, la méthode traditionnelle, on ajoute une liqueur, tout simplement.
Du sirop. On ajoute du sirop de sucre.
Du sirop de sucre, de la liqueur de sucre.
Et ça, c'est le traditionnel, justement.
Ça, c'est une méthode traditionnelle, oui.
Bon, on trouve Château Les Vignals où ? Dans des restaurants, dans des supermarchés, chez des cavistes. Bien sûr, ici, à la cave BBR.
Exactement. Donc, le Château Les Vignals, nous, on est en majorité chez les cavistes et dans les restaurants. On ne travaille pas avec les grandes surfaces. On peut nous retrouver dans certains biocopes. Mais voilà, nous, on privilégie vraiment les petites surfaces, les endroits où il y a du conseil. Pour nous, c'est important que le client puisse avoir de manière, même si elle est un petit peu indirecte, une relation avec le domaine et avec nos vins.
Il faut pouvoir raconter une histoire.
C'est ça.
C'est toujours l'histoire.
C'est le plus beau.
C'est ça le marketing du vin, il faut raconter des histoires.
Aujourd'hui, c'est ça.
Raconte-moi une histoire, Pascal Olivier.
J'ai soif.
Oh, sorry. There will be other songs to sing. Yes, another ball, another sing. But there will never be another you, another baby.
Et nous voilà de retour dans notre studio au 5 Boulevard Hérisson avec Pascal Olivier. On n'arrête pas de faire des allers-retours, de se téléporter à la cave BBR dans la zone industrielle.
Pour le faire aussi, puisque c'était aujourd'hui vendredi, mais ça sera aussi demain samedi, c'est-à-dire aujourd'hui si vous réécoutez l'émission.
Alors oui, vous avez entendu des conversations et des dégustations de Clément Mingus du domaine de Casaban, de Lucie Pitana de Château Vignal de Gaillac, le domaine de Casaban c'est dans le Cabardès. Vous avez entendu le stagiaire qu'on salue au passage de chez Château Boujac, de la OP Fronton. Château Boujac, vous pouvez retrouver sur cfmradio.fr
un QQD entier qui est consacré à ce vignoble là. On a eu le plaisir d'avoir au téléphone aussi monsieur Vatelot. Alors là on était sur autre chose, on était dans l'entre-deux-mers, et ça c'est les vins qu'on dégustait ici dans notre studio.
Château de Reignac.
Et puis voilà, on fait un
Nathalie
petit...
Patard qui cherche des petites mains.
On a fait un petit clin d'œil à Nathalie Patard, et puis on a eu au téléphone aussi l'avocate de Cocopelli. Renseignez-vous, allez taper sur internet Cocopelli et envoyez les documents qu'il faut, envoyez les bons courriers à vos députés pour qu'ils remettent dans la loi ce truc-là, parce que sinon demain vous cultiverez vous aussi des tomates à la flotte d'Espagne. C'est dans votre jardin.
Ouais, les tomates est fin.
Pas possible.
Voilà. Les tomates de semencier, les tomates brevetées, ça va pas.
Ça va pas du tout. Toute la journée et tout le week-end, c'est la fête des pères à la cave BBR. Salut.
Salut à tous.
Petite idée de sortie, sinon Jean-Michel nous trucide.
Pardon, mille ans qu'il a. Il a mille ans, Jean-Michel, de l'émission Flashback.
C'est Conan le barbare.
Mille ans. Et il fête ses mille ans. Il fête sa millième émission. À l'acoustique, c'est une soirée super. C'est une soirée CFM. Attention, soirée CFM, samedi soir, à Montauban, à l'Acoustique Pub. Jean-Michel est aux platines. Toutes les années 80, retour vers le futur et tout.
Et 70.
Et 70. Ah, ces années-là. Tout.
La mille, papa. Mille
émissions. Il a mille ans.
Mille émissions. Depuis 98, il est à CFM. Ou il fait de la radio, en tout cas.
Non.
Ouais, il fait de la radio. Pardon.
Si, non, mais. Il fait de la radio depuis 30 ans.
Eh bien. Mais est-ce qu'il a commencé à CFM?
Mais non, il a commencé bien plus tard. Jean-Michel, il a fait, je crois, au début, il était à Radio Ingres. Après, il a dû faire Radio Bakersi. Il a dû faire Radio, non pas Bakersi, mais Radio Doc, peut-être. Pas Radio Doc, pardon.
Mais il passait à Radio Asso.
Radio Asso. Ouais. Voilà, Radio Asso.
Et en 98, il arrive à CFM.
Et en 98, il est arrivé, même peut-être en 97. Non, 98?
Donc, c'est à l'Acoustic Bar, à Montauban, samedi soir.
Et c'est tous les lundi sur CFM à 19h et tous les dimanches matins à 9h30.
Génial.
Jean-Michel, Flashback avec des invités de renom. En ce moment, vous avez pu entendre
Flic Manœuvre,
le rédac-chef de Rock'n'Folk.
Mais les gens se plaignent de quoi?
Bientôt, il va avoir comme invité Michel Delpech.
Qui sait, Michel Delpech?
Mais non, allez, ça y est, elle est là de l'autre côté du poste. Je l'entends déjà. Il en peut plus, Jean-Michel. Non, Jean-Michel, c'est une blague. Samedi soir, Jean-Michel est aux manettes à l'Acoustic Pub.
Voilà. C'est gratos.
On ne vous conseille que ça.
C'est gratos. Hey,
Jean-Michel, j'aurais pu annoncer, parce qu'on est partenaire du Festival des Voix de Moissac, j'aurais pu dire aux gens,
allez à Moissac,
voir,
Yael Naïm.
Ben non.
Allez
voir Jean-Michel.
Et nous, on va se faire tuer parce qu'il est 19h02, Jean-Michel.
Allez, top.
À cause de toi, Jean-Michel.
Salut. Salut. Plus de millième.